Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence de Nantes Renaissance. Habituellement, j'ai la charge d'introduire le conférencier. Pour le coup, ce soir, je ne vais pas l'introduire. Mais permettez-moi tout de même, en introduction, d'évoquer les conditions dans lesquelles je vous propose cette conférence ce soir. Conférence dont j'ai précisé le titre, et je vous propose d'évoquer ensemble l'héraldique dans l'ornementation architecturale nantaise. Car effectivement, quand je voulais parler des symboles du pouvoir, la représentation du pouvoir, le média le plus, ou la catégorie, disons, la plus répandue, c'est le symbole héraldique. Donc nous allons beaucoup parler d'héraldique ce soir. Ce que je vous propose ce soir, c'est le résultat de recherches que je mène depuis 3 ou 4 ans à peu près maintenant, en collaboration avec la Société française d'héraldique, aux Archives nationales. Ces symboles héraldiques, c'est-à-dire les blasons, on va parler des blasons ce soir, sont souvent étudiés, mais dans les armoriaux, c'est-à-dire dans les ouvrages où vous avez les dessins des armoiries des nobles. Et finalement, il y a assez peu de recherches sur les supports sur lesquels étaient représentés ces blasons. Et ça fait 3 ans maintenant qu'il y a un programme de recherche mené avec l'Université du Havre qui réfléchit aux représentations de ces symboles héraldiques. Comment étaient-ils utilisés? Où étaient-ils représentés? À quoi servaient-ils? L'étude que je vous propose aujourd'hui n'est qu'un état, ce n'est pas encore terminé. Je dois présenter les conclusions de ce travail l'année prochaine, lors de la prochaine réunion de ce colloque international, mais je souhaitais vous en donner la primeur. Certes, par amitié, mais c'est aussi très intéressé, c'est que s'il en manque, je veux bien que vous me les signaliez. Sachant que cette conférence de ce soir ne se veut pas complète, elle ne se veut pas exhaustive, mais j'ai essayé tout de même de représenter ou de figurer dans ce diaporama les représentations les plus jolies, les plus intéressantes, et puis d'essayer de les regrouper par catégorie, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de les regrouper par catégorie et de trouver des logiques dans ces organisations. Avant de continuer, je veux m'assurer que vous m'entendiez bien tous. J'avoue que j'ai besoin de mes mains, je ne serai pas très efficace avec un micro. Bien, donc si vous me permettez, je continue comme cela. Alors, les symboles du pouvoir, leur message. Nous allons égrener ensemble ces représentations, ces symboles héraldiques que l'on peut voir à travers la ville. J'ai décidé de les regrouper par autorité. Tout d'abord, nous sommes à Nantes, capitale cité des ducs de Bretagne. Le premier pouvoir à figurer, à apposer en quelque sorte son sceau, parce qu'il s'agit vraiment de cela, hein, les armoiries. Sur les bâtiments, ça n'est rien de plus que la position du sceau sur le bâtiment. Le pouvoir ducal, donc, est, me semble-t-il, le premier pouvoir, la première autorité à placer les symboles de son pouvoir. Ces symboles, vous les connaissez, c'est essentiellement les mouchetures d'Hermine. Les mouchetures d'Hermine, symbole de la Bretagne depuis le début du XIVe siècle, vont apparaître très régulièrement sur les écus, sur les blasons. Ce que je vous ai représenté ici viennent de supports différents. Ici à gauche, c'est juste à gauche de l'entrée du château des Ducs. À droite, ici, avec 2 lévriers autour, c'est à la cathédrale de Nantes. J'attire l'attention sur les lévriers parce qu'il s'agit généralement de décors féminins. Quand l'écu de Bretagne est soutenu par deux lévriers, on est plutôt à l'époque d'Anne de Bretagne. Ce n'est pas systématique, mais c'est plutôt époque Anne de Bretagne. En haut, vous avez une clé de voûte, une ancienne clé de voûte qui nous vient de la collégiale Notre-Dame de Nantes. Donc le symbole des ducs est figuré partout, dans tous les lieux de pouvoir, que ce soit le château, la cathédrale ou la collégiale Notre-Dame en particulier. L'ancienne clé de voûte qui est ici est conservée au musée d'Aubray. Mais en règle générale, et si j'attirais votre attention sur les lévriers, c'est que souvent, l'écu de Bretagne est plutôt soutenu par des lions. Et les lions, le lion, c'est un symbole masculin, souvent lié au pouvoir, à la notion du pouvoir, et lié à la personne ducale, au duc de Bretagne, je veux dire. Quand c'est soutenu par des lévriers, c'est plutôt contemporain d'une duchesse. Quand c'est soutenu par des lions, c'est plutôt contemporain d'un duc. Ici, c'est de l'autre côté de l'entrée du château des Ducs. Vous voyez que l'écu de Bretagne est soutenu par des lions. Il se trouve que cette partie-là a été reprise, réaménagée, agrandie, renforcée par le duc François II. Ici, à droite, vous avez deux mauvaises photographies, je vous prie de m'en excuser. Sortant également des collections du musée d'Aubray, cette clé de voûte, c'est une clé de voûte également, figure le blason de Bretagne, soutenu par deux lions. Celle-ci vient de la cathédrale. Autre lieu de pouvoir, bien entendu, le duc appose sa marque. Nous sommes dans la deuxième moitié du XVe siècle et en règle générale, l'écu de Bretagne va avoir comme cela un champ d'hermine, souvent neuf, parfois plus. Quand on n'en a que trois, nous sommes au début du XVe siècle. Donc le nombre d'hermines également change en fonction de l'époque. Le nombre d'hermines, tout comme la forme des hermines, la forme de l'écu. Ici, vous avez peut-être reconnu le lion soutenant un écu d'hermine qui est au pied du tombeau de François II à la cathédrale. Eh bien, vous voyez cet écu avec une forme assez particulière, là, comme cela, évasée. Vous allez la retrouver également ici, sur une serrure, avec des lions soutenant un écu de Bretagne. Et c'est cette représentation, cette façon de représenter le blason de Bretagne est contemporaine du début du XVIe siècle. Quand on connaît les codes graphiques, on peut arriver à dater ces différents éléments. Et si vous voulez, c'est justement sur la base de ces éléments, sur l'analyse de l'évolution de la représentation des blasons, que nous allons ensemble pouvoir justement replacer des ornements dans leur contexte afin de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. C'est ainsi, par exemple, que je vous présente une magnifique sablière. La sablière, c'est la poutre à l'intérieur des églises, en particulier, hein, qui soutiennent la charpente. Eh bien, cette sablière est conservée dans les réserves du musée d'Aubray, mais à l'origine, elle vient de l'ancien couvent des Jacobins, l'hostellerie des Jacobins, pour être plus précis. Cette sablière nous présente un très beau panel de blason. J'ai essayé d'en mettre un agrandissement ici. Vous voyez là, il y a trois blasons. Ces trois blasons représentent trois personnages. Le blason central, le personnage le plus important, eh bien on peut très facilement l'identifier. Il s'agit de Jeanne de Navarre, troisième épouse du duc de Bretagne, Jean IV. Jeanne de Navarre, on le sait, car à gauche, vous avez des mouchetures d'hermine. La partie gauche d'un blason féminin, ce sont les armes de son mari. Et à droite, ce sont ses armes personnelles. Elle était la fille du roi de Navarre. Ici, c'est le symbole de Navarre. Et son père était également comte d'Évreux. Et ici, vous avez les armes d'Évreux. Ce sont les armes de son père. Et donc, la seule Navarre Évreux mariée à un duc de Bretagne, c'est Jeanne de Navarre. personnage donc central, puisqu'elle est positionnée au milieu de cette sablière. Je précise au passage qu'a priori, ces éléments étaient peints. Ils représentaient les couleurs des blasons. Aujourd'hui, ces couleurs ont disparu, mais à l'origine, ces objets étaient très hauts en couleurs. Personnage central, Jeanne de Navarre, qui est veuve dès 1399. Elle se fait entourer ici du blason de son fils, Jean V, qui devient duc de Bretagne en 1399, à l'âge de 10 ans, à la mort de son père. D'ailleurs, c'est Jean V qui meurt à deux pas d'ici. Il meurt au manoir de la Touche, dans le palais d'Aubray actuel. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez un autre blason féminin d'une autre femme ayant épousé un duc de Bretagne, une femme dont les armoiries d'origine sont des fleurs de lys. C'est donc une femme descendante des rois de France, mariée à un duc de Bretagne, et il ne peut y en avoir qu'une, c'est Jeanne de France, l'épouse de Jean V. Fort de tous ces éléments, on sait que cette sablière date forcément du début du XVe siècle, puisque tous ces personnages meurent autour de 1430-1440. Je vous ai dit tout à l'heure que cette sablière vient du couvent des Jacobins. Eh bien, grâce à l'étude de ces armoiries, tout nous laisse à penser que cette sablière date de 1410 à 1413. Comment je sais ça ? Tout simplement parce qu'il y a eu des travaux de rénovation du couvent des Jacobins, ou plutôt de réhabilitation du couvent, la chapelle avaient subi un important incendie. Et il faudra 3 ans de travaux pour restaurer ce couvent. Et cette sablière, à mon sens, a été placée entre 1410 et 1413 au moment de ces travaux de rénovation. Comme au centre, ce n'est pas la duchesse régnante, ça n'est pas le duc, mais en quelque sorte la reine-mère ou en tout cas la duchesse-mère. Ça n'est pas en tant que duchesse qu'elle est figurée, mais en tant que donatrice, et elle a donné de l'argent sur ses fonds propres. Et elle se fait entourer de son fils et de sa belle-fille. C'est donc cette sablière nous indique que la duchesse, Jeanne de Navarre, a financé sur ses deniers propres la restauration du couvent des Jacobins. Car effectivement, j'allais dire que ça fait presque partie de la fonction classique d'une duchesse. Disons de s'occuper des bonnes œuvres, des œuvres de charité et du mécénat. Ça n'a pas tant changé que cela aujourd'hui. Les épouses de présidents de la République, en règle générale, s'occupent des fondations de bienfaisance, etc. Eh bien, au Moyen-Âge, c'était déjà le cas. Et au Moyen-Âge, donc, les duchesses donnent régulièrement de l'argent aux établissements religieux et en tant que donateurs, elles sont remerciées en voyant l'apparition de leur blason. Et c'est vrai qu'à Nantes, on va avoir une série comme cela d'armes ducales, d'armes de duchesse apparaître dans les anciens édifices religieux. Ici, par exemple, vous avez un bas-relief aux armes à gauche de Bretagne. Elle est un peu effacée, mais on aperçoit tout de même les mouchetures d'hermine. Et à droite, c'est un lion. Ce sont les armes d'Écosse, d'Isabelle d'Écosse, épouse du duc de Bretagne, François II. Elle vient du couvent des Cordeliers. Ce bas-relief laisse à penser que Isabelle d'Écosse a financé des travaux d'amélioration, d'embellissement du couvent des Cordeliers. Ça sera la même chose pour Françoise d'Amboise, épouse du duc Pierre II, 1450-1457. Autre bas-relief, extrait des collections du musée d'Aubray, où on voit qu'elle est l'épouse d'un duc de Bretagne, et ici c'est son blason. Alors ici vous avez une statue de Françoise d'Amboise qui se trouve à la cathédrale de Nantes. Quand vous entrez, c'est dans la partie gauche, dans l'une des chapelles de gauche, dans le fond. Je me rapproche, je fais un petit zoom, voici son blason. reconnaît ici les bandes d'or et de gueule, c'est-à-dire jaune et rouge, elles sont ici. On reconnaît ici des fleurs de lys, on les retrouve là, et il y a un carré ici, rouge, que l'on retrouve là également. Son blason est très fidèlement représenté sur je crois que c'est une ancienne clé de voûte, également conservée au musée d'Aubray. Les duchesses apparaissent régulièrement dans ou au fronton des monuments publics. Elles apparaissent certes dans un rôle donc de donatrice, de mécène soutenant les édifices religieux, mais pas seulement. Il arrive de les voir figurer sur des lieux de pouvoir. La duchesse est intimement liée au pouvoir ducal. Et on va notamment la trouver au château. Ici, vous avez un bas-relief de lucarne. Voici la lucarne avec le bas-relief ici. J'ai essayé de zoomer. Voici ce que l'on aperçoit. Vous avez d'un côté des moustures d'hermine et de l'autre côté, on retrouve ces sortes de bandes là avec une sorte de vache au-dessus. Vous apercevez la vache ? Oui ? C'est pas une vache, hein, mais c'est une sorte de vache. Je vais vous les montrer juste après. Lorsque vous entrez au château, par l'entrée principale, que vous vous retournez, vous avez une partie 17e et une partie 15e au-dessus de la porte d'entrée. Eh bien, c'est dans cette partie 15e, légèrement sur la gauche de l'entrée, quand vous vous retournez. Eh bien, j'avoue que ce blason m'a posé vraiment question, parce que, avec des barres comme ça, puis une sorte de vache... Non, c'est pas Béarn, c'est Foix. Mais vous avez raison, les vaches viennent du Béarn. Les vaches viennent de Béarn. Et en fait, ça m'a posé question parce que ça ne correspond à aucun blason de duchesse. Ça ne correspond à aucun blason lié directement à la famille ducale. Sauf à une personne. Oui, je vais vous le dire. C'est Marguerite de Foix. Seconde épouse de François II. Sauf que elle a bien les bandes ici, qui sont de Foix, le Béarn, là on aperçoit mieux les cornes de nos vaches, mais son vrai blason complet, c'est celui-ci, c'est tout ça. Alors je vous épargne le descriptif, mais son vrai blason, c'est ça. En réalité, son blason est d'ailleurs figuré dans le détail, et vous le voyez au détail près, c'est l'autre partie, l'autre personnage du tombeau de François II. Tout à l'heure, je vous ai montré le lion côté duc. Voici le lévrier côté duchesse et qui soutient le blason de la duchesse. Eh bien, Colombe, quand il a sculpté, ce tombeau, a bien mis le blason complet avec les moustures d'hermine et le symbole complet, le blason complet de Marguerite de Foix. La seule explication que j'arrive à trouver pour ce blason ici, c'est tout simplement une simplification, pour dire gentiment, une simplification du blason au moment de la restauration du château. Je serais tenté de dire qu'il y a plutôt eu une incompréhension du blason. On a vaguement aperçu une vache, on a vaguement aperçu des bandes, on a fait un truc dans ce genre-là. Mais pas du tout. À l'origine, le blason est beaucoup plus complet et vous voyez que même dans la pierre, un sculpteur peut réaliser précisément le blason. Ça signifie donc que François II, lorsqu'il a renforcé le château de Nantes, eh bien il y a associé son épouse. On voit des moustures d'hermine un peu partout, c'est son blason à lui, mais il y a associé également son épouse puisqu'elle est liée au pouvoir ducal. Et d'ailleurs, ça n'est pas la seule duchesse à montrer son pouvoir au château. Je vais vous parler de deux détails qui se trouvent au niveau de la tour de la couronne d'or, tout en haut et au milieu. Eh bien, à ces deux endroits-là, il y a un personnage qui a apposé sa marque, qui a montré son autorité. Elle porte l'initiale A. Qui est-ce ? C'est Anne de Bretagne. Anne de Bretagne a apposé sa marque, son chiffre. Le chiffre, c'est généralement composé de l'initiale. C'est l'initiale d'un personnage important. Eh bien, regardez, tout en haut, la partie brillante, vous avez un A couronné. Et ici, tout autour, vous avez des A couronnés. Cette tour de la couronne d'or a été commandée, construite sous le règne d'Anne lorsqu'elle est remariée à Louis XII. C'est important parce que Charles VIII ne lui aurait pas laissé faire ça. Charles VIII aurait mis des fleurs de lys partout. Mais Anne de Bretagne, elle, avait négocié et rappelait à chaque fois qu'elle le pouvait la souveraineté du duché. Dans les clauses de mariage d'Anne de Bretagne et de Louis XII, les deux souverains étaient mariés, les deux, le royaume et, le duché, étaient associés sous la même couronne, mais ça restait deux États souverains indépendants. Et Anne va donc marquer le plus possible son chiffre et son autorité souveraine à Nantes. C'est une partie publique. Ça s'expose. Nous sommes bien avant l'invention de l'imprimerie, donc on n'a pas d'affiche. Et l'un des moyens d'afficher son pouvoir, ou le symbole de son pouvoir, ce sont ces bâtiments publics, ces bâtiments liés au pouvoir. Et regardez avec moi, les A couronnés sont vraiment légions. On en trouve partout. Ici, là, de l'autre côté, sur cette photo-là, mais on en voit absolument partout. Anne marque bien qu'elle est chez elle. D'ailleurs, voici une enluminure qui représente la salle du trône d'Anne de Bretagne. Regardez le vitrail, vous avez à nouveau des A couronnés. Et ici, c'est son blason personnel. Donc, comprenez que c'est à l'envers, puisqu'on est à l'intérieur et c'est fait pour être vu de l'extérieur. Les moustures d'hermine, en réalité, sont à... ça se regarde comme cela. C'est l'épouse, donc les moustures d'hermine sont à droite, alors que les armes de son mari sont à gauche. C'est une duchesse de Bretagne mariée au roi de France. Donc elle appose comme cela sa marque le plus possible. Et c'est aussi dans les clauses du mariage d'Anne de Bretagne qu'Anne de Bretagne, sur les monnaies frappées à Nantes en particulier, elle ajoute systématiquement son chiffre, le A couronné. Le roi a le droit de frapper des pièces de monnaie à Nantes parce qu'il est le mari de sa femme, parce qu'il est le mari d'Anne, c'est ça que ça signifie. Et d'ailleurs, la légende ici rappelle bien Ludovicus dei Gracia, Francorum Rex, Britonum Dux. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et duc de Bretagne, par les droits de sa femme. Et donc, ici au revers, uniquement des A couronnés et des moustures d'hermine. C'est un symbole important que l'on va voir répété un peu partout au château, notamment donc sur la tour de la couronne d'or. J'attire maintenant votre attention, nous sommes rentrés, nous sommes face à la tour de la couronne d'or, sur la partie de gauche. Juste au pied, là, se trouve l'entrée de l'accueil du château, et vous avez l'escalier qui permet de monter au rempart. Eh bien, j'attire votre attention sur ce bas-relief et sur toute cette lucarne. On va s'approcher. Sur cette lucarne, ici, vous avez quantité de symboles liés à la duchesse et à son mari. Vous avez au centre l'écu d'Anne de Bretagne, que vous connaissez maintenant, partie de France à gauche, les armes de son mari, et de Bretagne à droite. En dessous, il y a deux symboles, deux animaux. Le porc-épic, c'est l'animal emblème de son deuxième mari, Louis XII. D'ailleurs, on le retrouve sur les pièces de monnaie que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ici, le lévrier, c'est Anne, puisque une duchesse se fait représenter sous les traits du lévrier. Regardons au-dessus, à droite. À droite, ici, vous avez, alors croyez-moi sur parole, mais c'est un L. Vous avez une barre longue, ici, et un petit retour, là. C'est un L, c'est le chiffre de Louis, c'est la marque de Louis, que vous retrouvez à nouveau sur les pièces de monnaie. Vous avez ici des L et des porc-épics, le représenté là. Et autour du L, vous avez des fleurs de lys. C'est le symbole de Louis. De l'autre côté, qu'avons-nous? Eh bien ici, c'est à nouveau un A.